en tant que successeur de Moïse. Et dans le sujet qui nous préoccupe là en particulier, c'est celui qui fait la guerre contre Amalek. Okay. Alors, on commence donc... non, c'est pas chapitre 14, excusez-moi. C'est chapitre... 17, quelqu'un. Okay. Chapitre 17, à partir du verset 5. Bon, d'abord quelques mots sur la personnalité de Josué. Il s'appelait d'abord Hoshea Ben Nun. Et il était de la tribu d'Éphraïm. Bon, au moment de ce qu'on appellera l'affaire des explorateurs, vous êtes déjà un peu au courant de cette affaire ? Quand le peuple a demandé à ce qu'on envoie des espions pour explorer le pays, pour savoir vraiment s'il correspond à la promesse, et puis surtout pour savoir si on était capable de l'occuper, alors finalement, Moïse envoie, ça c'est une paracha que vous apprendrez dans le livre de Bemidbar, Moïse envoie un représentant par tribu. Et ça fait donc 12. Et Hoshea Ben Nun était le représentant de la tribu d'Éphraïm, dont il fait partie. C'est important parce que Éphraïm, c'est la tribu de Joseph. Okay. Et puis, de la tribu de Yehuda, c'est Caleb ben Yefuné. Caleb. Or, ce sont les deux seuls qui, en revenant de l'exploration, vont dire au peuple, eh bien, il faut rentrer dans le pays et accomplir la promesse. Les 10 autres se rebellent. Vous rappelez de l'essentiel de ce problème. Et vous voyez déjà, je me rattache un peu à votre préoccupation générale, nous avons à peu près toujours la même proportion. Hein ? Un cinquième du peuple hébreu était sorti d'Égypte. Et là, un cinquième des représentants du peuple qui était sorti d'Égypte sont pour Eretz Israël. Vous avez remarqué ça, 2/12, ça fait à peu près un cinquième. Okay. Et seuls Josué et Caleb vont rentrer en Eretz Israël et toute la génération qui avait refusé ne rentrera pas. Vous vous rappelez de cela? Alors au moment de cette affaire des explorateurs, Moïse a changé le nom de Hoshea Ben Nun en Yehoshua Ben Nun. Il a ajouté un yud. Alors le sens du nom change un peu, mais dans tous les cas, la racine de ce nom de Hoshea, Yehoshua, ça veut dire le sauveur. Bon, suivant la tradition, c'est pas la peine de le noter. Quand Sarai a dû changer son nom en Sarah, ce Yud de Sarai attendait de savoir où il allait se mettre. Et puis, c'est ce Yud de Sarai qui s'est ajouté à Hoshea. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprendrez dans 40 ans. Mais retenez simplement que les choses sont liées déjà avec Sarah. Bon. Et... Alors vous voyez le lien qui va s'établir. C'est Josué qui prendra la succession de Moïse pour donner à Israël la terre d'Israël. Et c'est Josué qui est chargé de faire la lutte contre Amalek. Relier ces deux choses. Okay. Vous comprenez ce qui se passe là? Okay. Ça veut dire que c'est lié dans le principe que Josué est responsable de ces deux choses à la fois. D'une troisième aussi, que je vais ajouter tout à l'heure. Et la Gemara établit que ce sont ces trois choses-là qu'il faudra faire d'abord lorsqu'on reviendra à la fin des temps en Eretz Israël. La guerre contre Amalek, la conquête d'Eretz Israël et la construction du temple. Bon, Josué n'a pas pu faire la troisième chose, il faudra qu'on attende le fils de David, Salomon. Okay. Mais tout ceci est un problème pour lui-même. Les postes qui vont étudier tout cela, en particulier Maïmonide, qui a trois mitzvot importantes au moment où on rentre dans le pays, détruire Amalek, et assurer la souveraineté juive, israélienne, sur Eretz Israël, et la construction du temple. Et vous remarquez que nous sommes occupés à ces deux choses-là, aux deux premières, pour préparer la troisième. Et Maïmonide ne peut pas être taxé de sionisme. Maïmonide, c'est Stam, un rabbin de la Galoute. Et il a codifié cela de façon très, très claire. Bon. Alors, je reviens à notre problème. En tout cas, le lien qui apparaît ici nous éclaire un peu déjà sur notre sujet. C'est que Josué, en tant que successeur de Moïse, va être chargé de ces deux choses-là, la guerre contre Amalek et la conquête d'Eretz Israël. Alors nous allons lire quand même le texte. Va Yabor Amalek à partir du verset 5. Et Amalek vint. Et vous rappelez ce qui s'est passé au. Est arrivé. Surgit Amalek. Et vous rappelez ce qui s'est passé au verset précédent. Il y avait un doute en Israël. Vous vous rappelez de cela? Et chaque fois qu'il y a un doute, Amalek surgit. On a appris ça la dernière fois. Je vous ai signalé que la valeur numérique de Safek et Amalek, c'est la même. Okay. Assez vite, excusez-moi, j'ai dit ça un peu. Bon. Bien. Va y avoir Amalek, et Amalek survint, va y lachem en Israël, et fit la guerre contre Israël, Birfidim, à un endroit qui s'appelle Refidim, qui se trouve d'ailleurs dans le Sinaï. Jusqu'à récemment, il y avait une très grande base militaire israélienne. Ça a été rendu, je crois, déjà à l'Égypte, provisoirement, je suppose. Mais... Et alors, c'est un... À Refidim était un de ces endroits où il y a eu contestation contre Moïse, perte d'assurance, doute, donc, le Midrash explique chez Rafou Yedeem, chez l'Israël, en se basant sur le mot Refidim, Rifion Yadaim, ça veut dire devenir faible, lâche. Okay. Donc, Arfidim, Amalek vient. Bayomer Moshe et Yoshua, et Moïse dit à Josué, Behar lanu anashim, choisis pour nous des hommes, Vetzel ilachem bar Amalek, et sort en guerre contre Amalek, Maha, demain, Anochi nitzav arosh agiva, je me tiendrai sur le haut de la colline, où Matea Elokim Beyadi, et le bâton de Dieu dans ma main, Bayas Yoshua Kacher Amar le Moshe, et Josué fit comme lui a dit Moïse, le Hilachem Bar Amalek, pour faire la guerre contre Amalek, où Moshe a Aaron Behur et Moïse, Aaron et Hur, Hur est un des fils de Aaron, Alou Roshagiva, sont montés en haut de la colline. Vaya, et il arriva, Kacher Yarim Moshe Yado, lorsque Moïse levait la main, Vegabar Israël. Israël était plus fort. Relier cela avec. Ensuite, on verra, on essaiera un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe là, un miracle. Quand Moïse est capable de lever les mains, alors Israël est victorieux. Mais si Moïse baisse les mains, c'est Amalek qui est victorieux. À quoi ça se relie? Vous avez déjà étudié ça dans la nuit d'études. Tant que le sroud de Moïse est présent en Israël, Amalek ne peut rien contre Israël. Vous vous rappelez de cela? Et Moïse, ça veut dire quoi? La fidélité à la Torah. Vous vous rappelez? Et ça se relie avec ce que nous avons appris d'autre part, du sort différent qu'ont eu les deux royaumes d'Israël. Le royaume du Nord, sans la Torah, se perd. Et le royaume du Sud, Juda, qui a gardé la Torah, survit. Vous vous rappelez? Les deux boucs de Kippour, tout cela. Tout ça, ça se relie. Ra'asher yaniach yado, et lorsqu'il baissait les mains, les gabar Amalek, c'est Amalek qui surmonte. Vide Moshe Kebedim. Or, les mains de Moïse étaient lourdes. Vaïkhu Eben, et ils prirent, Aaron et Hur prirent une pierre, Vayasimu Tartav, ils l'ont mis sous Moïse, Vayashev Alea, il s'est assis dessus, Vaharon Vehur Tamchu Beyada, et Aaron et Hur soutenaient ses mains de Moïse, Mise Echad, l'un de chaque côté, Vayi Yadav Emuna Advo Hashamesh. Et ses mains, les mains de Moïse, étaient Emouna. Alors, Emouna, qu'est-ce que ça veut dire? La foi, tout simplement. Okay? Jusqu'au coucher du soleil. Voyahalosh Yoshua et Amalek, et Josué affaiblit Amalek, avec Amo et son peuple, les Fiharev, par l'épée. Avant de voir la suite, mais donc l'idée qui apparaît là est très importante. La force pour lutter contre Amalek s'appelle Emouna. Et la Emouna qui vient de Torah de Moshe. C'est pas plus difficile que cela à comprendre. Effectivement, c'est la Emouna qui s'oppose au Safek. Le Safek, le doute, fait venir Amalek. La Emouna, la foi, fait surmonter Amalek, sur Amalek. Vous avez compris le problème. Bon, ensuite il y a quelques versets, je vais vous traduire quand même, puisque nous allons les lire à Pourim. C'est-à-dire, on va lire quand cette paracha? Zachor, c'est une autre paracha. Cette paracha, c'est la paracha de Pourim. Alors cette année, on va la lire quand? Shabbat. Donc, puisque c'est Shabbat qui est Pourim à Jérusalem, et c'est reporté au... La Seouda est reportée à dimanche. On va la lire Shabbat à la place du Maftir, quoi, pour l'Aftar. Je veux dire, les demi-dotes, Chesed et Goura, les demi-dotes de Moshe Rabbeinu. Mais je veux surtout mettre l'accent sur Emouna. Alors je continue. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Ketov zot zikaron basefer, écris cela en souvenir dans le livre, Vesim beozni Yoshua, et place-le comme consigne aux oreilles de Josué, qui macho emche zecher Amalek, car j'effacerai le souvenir d'Amalek, mitachat hashamayim, de dessous le ciel. Vaïben Moshe Mizbeach, et Moïse construisit un autel, vaïkra Shemo, et il nomma son nom, le nom de cet autel, Hashem Nissi. Dieu est mon miracle. Dieu est ma bannière. Je ne sais pas comment on traduit, mais enfin. Mais tout ça, je n'explique pas, parce que ce sont des textes que vous étudierez beaucoup plus tard, quand vous serez un peu plus avancé. Vaïomer, et il dit qu'il y a d'Alkes, il y a. Car une main a été portée sur le trône de Dieu, la main de Amalek, Mihama l'Hachem, et c'est une guerre pour Hachem, bah Amalek contre Amalek, Midor d'or de génération en génération. Tu laisses un peu ouvert, si on entend. C'était pour moi?
Non.
C'est l'air. Bon. Voilà. Il y a donc, dès le début de la sortie d'Égypte, dès la constitution d'Israël comme nation, la guerre contre Amalek. Et elle durera de génération en génération jusqu'à la fin des temps, où finalement ce souvenir de Amalek sera détruit. Et alors, je vous dis simplement les grandes étapes. Au moment de la sortie d'Égypte, ensuite, lorsque le peuple est entré dans le pays, le premier roi qui a été choisi, c'était, avant David, Shaoul. Et Shaoul devait faire la guerre contre Amalek. Il a fait la guerre contre Amalek, mais... Et il a laissé Amalek survivre. Ensuite, nous retrouvons ce même problème avec Mardoché et Aman. Donc, autant des événements que raconte la Megillah d'Esther, des événements de Pourim. Et vous comprenez comment, d'époque en époque, chaque fois que Israël se constitue comme nation, apparaît de nouveau Amalek comme antagoniste et avec le même programme. Voilà. Je crois même que c'est inutile de dire que à la génération précédente avec le nazisme, à la génération contemporaine avec la prétention pratiquement universelle de remplacer Israël par la Palestine, que ce soit deux étapes différentes. Je crois que ce sont deux sous-étapes de la même guerre qui a commencé avec les Russes dans les grands pogroms de la fin du siècle dernier. Finalement, c'est le grand conflit, c'est avec les Russes. Et l'étape allemande, si vous voulez, est une étape dans ce grand conflit qui commence avec les Russes. Je ne sais pas comment vous dire ça très rapidement. Je crois que simplement il faut diagnostiquer la réalité comme elle est. Il est bien évident que, quand vous étudierez très attentivement l'histoire juive des dernières périodes et l'histoire d'Israël depuis sa fondation, il est bien évident que s'il n'y avait pas derrière la Russie, il y a très longtemps que tous ces conflits auraient pu être résorbés à l'échelle locale. Okay. Mais il n'y a pas de doute que tout le mouvement de constitution de la nation d'Israël du dedans du peuple juif dispersé commence avec les persécutions de Russie avant les persécutions en Allemagne. Et que l'alliance entre Hitler et la Russie, elle est là, un mystère pour les historiens, mais elle fait partie de ce problème. Okay. Et que finalement aujourd'hui, eh bien, c'est la Russie qui est derrière. Je pense que c'est surtout au temps de la guerre de Kippour que cela est devenu évident, que s'il n'y avait pas eu la volonté russe, il y a très longtemps qu'il y aurait, on aurait résorbé le conflit local. Vous voyez, tout cela apparaît un peu comme complexe, mais en réalité c'est très simple. Et chaque fois qu'une culture dans le monde prétend être ce qu'Israël est censé être, alors il y a ce conflit de Amalek. Il y a un messianisme russe que vous apprendrez peut-être d'autre part, mais enfin qui est tellement évident pour ceux qui connaissent la culture russe et l'âme russe, qui finalement est placé devant cette même alternative, ou eux ou nous. Et ils le savent très bien. C'est pourquoi, de la même manière que ça pouvait être étonnant au temps de la propagande hitlérienne, comment un pays aussi colossal que l'Allemagne ne voit que comme ennemi du genre humain qu'un tout petit peuple, quelques centaines de milliers de juifs en Allemagne, même s'il y en avait des millions en Pologne ou en Russie, et c'était disproportionné au niveau de la propagande. Et de la même manière, le grand slogan de la politique russe, c'est que la cause de tous les malheurs du monde, c'est Israël. Vous voyez à peu près cette disproportion. Je crois qu'elle a quelque chose d'extrêmement profond. Il y a un messianisme de la nation russe qui apparaît dans ce qu'on pourrait appeler l'impérialisme soviétique, enfin, qui a pris comme véhicule l'idéologie socialiste, mais qui est très profondément russe en tant que tel, et inévitablement, comme ça a été le cas du nazisme, comme ça a été le cas dans les civilisations précédentes, se désigne comme ennemi ou l'un ou l'autre, bien évidemment, l'identité Israël. Vous voyez la convergence de la massivité de ce problème. Bon, alors je résume ce que nous avons vu jusqu'à présent. On va reporter la période des événements du temps d'Assuérus bien avant, au temps de Josué. Et quels sont les éléments qui apparaissent là? C'est qu'effectivement, c'est Josué qui commence la guerre contre Amalek et qui est chargé d'ailleurs de la conquête d'Eretz Israël. Je pense que maintenant l'idée est très simple. Dès qu'Israël, à la sortie d'Égypte, se constitue comme nation, le problème d'Amalek surgit. Mais il surgit de quoi? D'une mise en doute par Israël lui-même de sa propre vocation, de sa propre identité. Chaque fois qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là, c'est ça la force d'Amalek. Et le texte que je viens de vous lire, qui n'est pas facile dans les détails, ça, il faut étudier cela à travers la Kabbalah pour voir le sens de chaque détail de la forme du texte, mais l'idée générale est très simple. C'est ce que représente Moïse et la foi d'Israël au nom de la Torah de Moïse qui est la lutte contre Amalek. Vous voyez comment les deux choses s'organisent. Je pense que c'est clair. Bon. Si vous avez des questions sur ce point. Et alors essayez bien de retenir les idées les plus simples, élémentaires, simplifiées. Okay. Et alors, j'aborderai une deuxième explication de ce même problème. Okay.
Quelle est l'importance des murailles?
Non, ça veut dire que l'analogie vient ainsi. C'est que à Shushan, à Suse, la capitale, il y a eu affirmation plus forte du miracle que dans toutes les autres villes. Okay. Et donc, la définition de ville entourée de murailles serait liée au fait que Suse était la capitale de cet empire. Mais la Guémara va déplacer cette définition aux villes d'Israël entourées de murailles au temps de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire au temps de Josué. Ville entourée de murailles, ça veut dire ville fortifiée, ça veut dire ville vraiment. Les autres, c'était des villages. Vous savez, essayez de penser un peu ces choses-là au temps de la féodalité. Les villes étaient entourées de murailles. À l'intérieur des villes, il y avait souveraineté du peuple. Et tous les autres, c'était des villages. Et lorsqu'il y avait danger, tous les habitants des villages rentraient dans les murailles de la ville. À peu près à ce niveau-là. J'ai pas bien compris ta question. En réalité, c'est le même. C'est le même qui apparaît sous des visages divers. Même s'il y en a deux, c'est le même. C'est le même. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour identifier la force de Achaf. Achaf, c'est la prétention de remplacer Israël. Ken, parce que je ne veux pas imputer cela à tous les Palestiniens, je veux dire les habitants du pays d'Israël qu'on appelle la Palestine. Mais ceux qui ont pour objectif d'annuler Israël pour se mettre à leur place. Parce que je suppose qu'il y a énormément d'Arabes ou de chrétiens, de musulmans habitants Eretz Israël qui envisageraient une solution différente de coexistence avec les Juifs. Mais cette volonté que c'est nous, le peuple de la Palestine, comme ils disent, et qu'Israël est un usurpateur et qu'il faut se mettre à sa place, ça c'est Amalek. Et on la trouve dans un autre style chez les Allemands du temps de Hitler. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Allemands qui envisageraient une coexistence pacifique avec les Juifs, pacifique ou pas, mais pacifique que ça, enfin, ou atlantique, si vous voulez, mais le nazisme chez les Allemands, il a le visage d'Amalek. Obsédé par ça, il faut détruire les Juifs et se mettre à leur place, pour que l'avenir du monde pour 1000 ans appartienne à l'Allemagne. Okay? La Russie, c'est la même chose. Je vous dirais une chose, j'hésitais à vous dire, mais enfin, simplement pour vous éclairer que toutes ces choses-là ont été étudiées pendant des siècles. Il y a un Tosfot quelque part, un des commentaires de Rashi dans la Gemara, je ne vous dirai pas où, qui analyse les choses de la façon suivante. Où sont les Cananéens du temps de Josué aujourd'hui? Et Tosfot répond, les Russes. Okay. Il dit, Knaan, c'est Moscova. C'est écrit en toutes lettres dans le Tosfot. Okay. Et alors, un des commentateurs postérieurs a expliqué cela d'une manière que je vais vous dire. Enfin, ce n'est pas les détails de ce genre, je sais bien que vous êtes friands de ces choses-là, qui importent. Ça, c'est le dessert. Okay. Ce sont les faits massifs. Et vous comprenez, encore une fois, je ne sais pas comment vous dire quand je vous ai expliqué les questions de date. Ce n'est pas parce que vraiment la date de la proclamation de l'État d'Israël était celle qui était connue que c'est sûr. C'est parce qu'il y a un État d'Israël. Et en plus, c'est à la même date. Vous avez compris le problème. Il faut d'abord voir les fêtes massives. De notre temps, les Juifs reviennent. C'est ça le signe que c'est le temps du retour des Juifs. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, dans la réalité positive. Okay. En plus, il y a un dessert extraordinaire de Gematriot, Montaricon, tout ce que vous voudrez. Mais c'est le dessert. Il faut d'abord le plat principal. C'est l'événement. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Parce que si quelqu'un est convaincu qu'il faut venir en Israël à cause d'une question de gamatria, c'est pas cachère. Vous suivez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est convaincu de la gamatria, pas d'Eretz Israël. Ça y est, c'est clair? Bon. Et alors, il explique la manière suivante. Vous verrez dans les textes, à propos de l'histoire de Noah, Ken, la malédiction sur Ham, lorsque Noah s'est réveillé du jour de son jour de Pourim, et puis qu'il a vu ce que Ham, son fils, lui avait fait, et il avait mis en question sa paternité, alors il a maudit sa descendance. Vous vous rappelez de cela? Et c'est très important, parce que Israël est fondé sur l'enchaînement des générations, les Toladot, alors que Ham se fonde sur le refus de la génération précédente, sur la rupture des générations. Okay. Il veut rendre stérile son père. Voilà ce qu'a fait Ham. Okay. Alors oui, il y a là deux options de l'histoire radicalement opposées. Et de Ham va sortir Knaan. Okay. Et la malédiction sur Knaan, c'est qu'il sera esclave. Vous vous rappelez de cela? Eved Avadim, Eved Lamo. Or, l'esclave se nomme slave. Esclave, ça veut dire esclave. et pas en français. Ça veut dire que l'étymologie vient du latin. Et c'est leur identité. Okay? Alors Tosfot tranquillement nous dit « Weknaan, va chercher chez les Slaves. Okay? » Ça y est, c'est clair. Or, la surprise, c'est pas que c'est vrai, c'est que c'est vrai que c'est vrai. Je veux dire, la surprise, c'est que finalement la réalité dévoile que c'est vrai. Et je garantis qu'on ne sait pas de quoi il faut le plus s'étonner. Que le texte ait prévu la réalité ou que la réalité s'entête à donner raison au texte. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les deux sens, là, ça marche.
Hein? La descendance de l'effet.
Eh bien, d'après la Gemara, non. Tu comprends, il faut voir les choses fondamentalement. Okay. Et je vous dirais d'ailleurs, l'histoire a fait un brassage tel que finalement, je ne crois pas qu'il faille perdre de temps à réfléchir à cet aspect du problème. C'est la situation d'identité qui est diagnostiquée. D'autant plus que les races, soi-disant, entre guillemets, d'après la Torah, c'est pas premièrement biologie. Ça passe par les langues. Ce sont les langues qui sont ou chamitiques, ou japhétiques, ou sémitiques. Okay? Tu comprends le problème? C'est pas forcément.
C'est une langue indo-européenne.
Bon, c'est ce que disent les linguistes. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est le diagnostic de la situation d'identité. C'est ça le plus important. Alors donc, on voit très bien que c'est la Russie qui a adopté la thèse des Cananéens. Un point. Et l'histoire dévoile que c'est effectivement avec eux qu'on est en guerre, par armée arabe interposée. Okay? Je pense que c'est bien clair. D'ailleurs, c'est eux qui ont donné ça, nous le savons maintenant déjà de façon très claire. C'est eux qui ont donné à Nasser la date de Kippour pour attaquer Israël. Okay? Et vous verrez que toujours Amalek, qu'il soit allemand, qu'il soit russe, choisit les jours de fête d'Israël pour les attaquer. Vous vous rappelez du Midrash, ils ont attendu Pourim pour attaquer à Pourim. Mais vous vous rappelez ce qu'on a étudié à la... Non, il a tiré au sort le mois, le jour du mois et le jour de la semaine. Et comme je vous disais... Oui. Attends, vous avez les textes qu'on a étudiés à l'université. Je vous ai dit, chaque fois qu'il tirait au sort le jour, il y avait un mérite. Que ce soit le jour de la semaine, le jour du mois. Et puis, quand il a tiré les mois, il a vu que dans le mois de Hadar, Moïse était mort. Et alors, ça lui a suffi pour dire que dans le mois de Hadar, il y a une vulnérabilité d'Israël. Et ce qu'il a oublié, c'est que le mois de Hadar, Moïse était né le même jour. Ça suffit, je comprends ta question. Mais le 7 Hadar, finalement, est devenu, pas une fête, mais un jour commémoré en Israël. Dans le calendrier israélien, le 7 Hadar, ça commémore quoi? Vous l'avez appris? Oui, tous ceux dont on ne connaît pas la tombe. Et c'est aussi d'ailleurs le jour de l'anniversaire de tous ceux dont on ne sait pas quand et où ils sont morts. Oui, c'est relié à l'histoire de Moïse d'ailleurs. Donc, bon, alors je referme la parenthèse. Et voilà donc la première explication que je voulais vous donner. Pourquoi on ramène cela au temps de Josué? Dans le fond du problème, c'est parce que Josué est relié à la guerre contre Amalek. Bon, c'est clair jusque-là. Alors nous allons aborder une deuxième manière d'étudier le problème, tout à fait différente. Et pour ça, vous allez prendre vos livres de Pirkei Avot. Hein? Il est 4h05. Bon, alors on fait une afsaka de 10 minutes, pas plus. Ok. Et on veut. Alors, le sujet, c'est la deuxième explication que je vais vous donner. Pourquoi on a fixé le Shushan Purim à partir du temps de Josué et pas à partir du temps d'Assuérus. Alors c'est relié à une toute autre dimension, c'est pas la lutte contre Amalek, reliée avec Eretz Israël, mais c'est la lutte. Je vous donnerai aussi un exemple de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Quand vous étudiez les croisades, bon, vous remarquez ces deux choses. La destruction des Juifs là où ils se trouvent et la volonté de prendre Eretz Israël. Les croisades, vous vous rappelez de cela? Bon, là aussi, il y avait apparition de Amalek. Okay? Est-ce que c'est clair le problème? Eh bien, cette fois, bon, vous m'appellerez de le rappeler quand Béni sera là. C'est relié au fait de la période de la fin de la révélation. Et voilà quel est le problème. Nous avons un enseignement que si le peuple, déjà au temps du premier temple, n'était pas dans un état tel qu'il a fallu que de nouveau les prophètes s'adressent à lui pour l'exhorter à la Torah, nous n'aurions eu comme livre de la révélation. La révélation comme phénomène s'attache à l'identité d'Israël. Mais comme livre de la révélation dans le Tanakh, que les cinq livres de Moïse et le livre de Josué. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cet enseignement ou cette tradition, non? Et peut-être qu'en bibliographie, déjà on vous en a parlé, vous avez dû oublier, ce qu'on appelle l'hexateuque. Le pentateuque, c'est les cinq livres. Et l'hexateuque, c'est les cinq livres avec le sixième, qui est celui de Josué. Okay? Et ça, c'est une chose connue. C'est qu'après le temps de Josué, nous n'avons pas les prophètes, mais les juges, mais dans la tradition de la révélation, Moshe Kibel Torah Messinaï, Umsara, les Oshuar, les Oshuar, les Skenim. Et ces Skenim qui sont les Shoftim. Okay? Vous voyez, là. Pardon? Les livres viennent après les Skenim. La prophétie va reprendre après le temps des Skenim. Avec un prophète qui s'appelle en français Osée, O-S-E-E, mais en hébreu, Hoshea. Hoshea, comme le nom de Yoshua. Okay? Oui. Trilat de Barachem, les Hoshea. Pour ça, vous apprendrez quand vous serez familier avec les textes. Retenez le déroulement de l'analyse. Okay? La capacité de prophétie qui s'attache au Tselem Elohim ne disparaît pas d'Israël. Même quand Israël est dans la Galoute, c'est enfoui, mais ça reste. Okay. Mais le fait que des paroles de prophétie sont données pour rester par écrit, cela, ça aurait dû s'arrêter, nous dit la Gemara, avec Josué. Okay. Vous suivez? Et c'est parce que l'état du peuple nécessitait l'exhortation des prophètes que nous avons les autres livres. De même, dans les références que je vous ai citées à propos de Pourim, nous en avons une autre que je ne vous ai pas dite encore. Bien entendu, d'ailleurs, tous les livres du Tanakh sont destinés à ne plus être par écrit, sauf la Megillah d'Esther. Oui. C'est-à-dire, à la fin des temps, enfin, au temps messianique, eh bien, la connaissance sera révélée de façon tellement expérimentale qu'on n'aura plus besoin de se référer à des livres. Il y a un passage du prophète qui le dit très clairement. On s'approche de ce temps, alors il faut vous habituer un peu à cela. Pour le moment, vous êtes 22 livres. Mais qui dit très clairement, et la connaissance de Dieu sera dévoilée comme l'eau sur le fond de la mer. Veya, Dehat Hashem, Kamaim, Layam, Mechassim. C'est-à-dire, et là, le prophète dit, plus personne n'aura besoin de dire à quelqu'un d'autre, apprends-moi, parce qu'on verra. Okay. C'est clair? Un peu comme au temps du premier homme avant la faute. Et aujourd'hui, on est encore dans ce stade où on a besoin de prophètes. On n'est plus dans le temps de la prophétie dévoilée, on a besoin de quelqu'un qui nous dit ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais il arrivera un temps où il suffira d'exister pour être. On n'aura pas besoin de quelqu'un d'autre pour être. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et alors, à ce propos, la Gemara dit, et en ce temps-là, tout le livre, on n'en aura plus besoin. Mais restera la Megillah de Pourim, parce que c'est le livre où se dévoile l'éternité d'Israël. Vous vous rappelez de ce que nous avons pris à ce sujet? C'est-à-dire qu'on aura une capacité de lire ce qu'il y a dans la Megillah de Pourim, au-delà ou plus profond qu'un récit comme ça d'une des délivrances de la persécution. Bon. Et alors, je reviens donc à cette Gemara. Normalement, le temps de la révélation, c'est le temps de la sortie d'Égypte, de la génération de la sortie d'Égypte. C'est un temps exceptionnel, ce temps de la génération de la sortie d'Égypte. Et nous avons eu déjà plusieurs études qui se réfèrent à cette notion. C'est un temps du dévoilement. C'est comme si c'était un temps messianique avant la lettre, qui aurait pu l'être définitivement s'il n'y avait pas eu la faute du Rodor. Vous vous rappelez? Bon. Et donc, c'est un temps de dévoilement. Vous remarquerez que toutes les mitzvot et toute la Torah à laquelle on se réfère, c'est la Torah donnée à cette génération-là. Okay. Et donc, normalement, si tout était allé comme il aurait fallu, eh bien, après ce temps de dévoilement où Israël est invité à l'expérience de la connaissance profonde qui se cache derrière les apparences, l'histoire aurait commencé déjà donc au temps de Josué. Pourquoi Josué et pas seulement Moïse? Parce que la génération du désert n'est pas en train d'hériter Israël, donc c'est la génération de Josué qui la remplace. Vous comprenez le problème? Et bien sûr, la capacité prophétique reste l'apanage de l'identité d'Israël, mais les livres de la prophétie, on n'aurait pas... D'ailleurs, il faut que vous sachiez, nous n'avons dans le Tanakh que quelques enseignements des prophètes. L'immense majorité de la prophétie qui a été prophétisée est restée orale. Et le Tanakh, c'est une sorte de décision du Sanhédrin que ces textes-là, on les mettra par écrit pour la postérité. Mais il y a eu énormément plus de prophètes et de prophétesses que nous avons dans le livre du Tanakh. Okay. Et toute une quantité de prophéties qui n'a pas encore été formulée, que l'on met sous le nom de Tana de Beliaou, l'enseignement d'Eliyahu HaNavi. On a parlé une fois de cela, Tana de Beliaou. Pas ici, pas cette année? Je suis sûr que oui. Un Shabbat. Ah, uniquement Kita Gimel. Ah, c'est possible. Bon, mais alors je vous en parlerai à tous. Et effectivement, la prophétie d'Eliyahu, c'est la seule qui n'a pas de livre dans le Tanakh. Okay. Chaque fois qu'un chidouche de la Torah apparaît, alors on le transmet sous le nom de enseignement de l'école de l'Ironab. En particulier lorsqu'on a étudié et qu'une connaissance nouvelle est apparue. Et puis, on se demande, mais qui a dit ça? Et on ne sait pas. C'est sorti de l'étude. Alors ça veut dire que c'est l'enseignement d'Eliyahu HaNavi. Où est-ce que je veux dire? Très souvent dans la... Bon, énormément de livres de Chidushim, de toutes les yeshivot, dans la yeshiva on étudie. À la fin de l'étude, on s'est aperçu qu'on a appris quelque chose de nouveau. Et puis chacun se demande, mais qui a dit ça? Toi? Non, moi c'est pas moi qui ai dit, on l'a appris, mais de l'étude. Alors on l'appelle Tana de Beliaou. On a enseigné cela à l'école d'Eliyahu HaNavi. Je vois que vous avez une Mishnah, Braïta, pas une Mishnah, qui commence par Tana de Beliaou, ça vient de là. Bon. C'est quand la machine à Chidushim fonctionne. Okay. Et, c'est ça? Et elle ne s'est jamais arrêtée. Okay. Et alors, donc je reviens au problème. Voilà, c'est relié à ce fait. En fait, nous savons que historiquement, la prophétie s'est arrêtée au temps de la Megillat Esther. Mais en principe, elle aurait dû s'arrêter déjà au temps de Josué. Mais dans l'occultation de la prophétie, mais pas l'occultation dans l'occultation. Vous vous rappelez Aster, Astir, Panaï, les deux fêtes de cachet. Okay. Alors nous allons avoir ici l'étude d'une Mishnah qui se relie à ce problème, et vous allez comprendre très bien par vous-même le lien. Alors la Mishnah nous dit ceci. Asara devarim, 10 choses, nibreu, be'erev shabbat, ben hachem hachot. 10 choses ont été créées la veille du shabbat, littéralement entre les soleils, ben hachem hachot. Je vous mets cette expression au tableau. Ben Hashemashod, Shemesh, le soleil, Shemashod, les soleils. C'est une expression dont on se sert pour dire le crépuscule du soir. Ce qu'on appelle le temps du crépuscule du soir, je vais essayer de vous le figurer là. Le coucher du soleil est le commencement de Ben Hashemashod, et l'apparition des étoiles est la fin de cette période de Ben Hashemashod. Vous voyez, le jour s'arrête là, mais en réalité le soleil s'est couché là. Okay. Alors cette période-là, où la nuit commence au coucher du soleil, alors qu'en réalité, elle devrait commencer à la sortie des étoiles. Le jour s'arrête à la sortie des étoiles, alors qu'en réalité, il devrait être arrêté au coucher du soleil. Cette période, qui s'appelle Erev en hébreu, le crépuscule du soir, le terme de la halakha, c'est Ben Hashem Hashor. Entre le soleil qui se couche et le soleil qui se lève, mais normalement, vous voyez la difficulté, Ben Hashem Hashor devrait être toute la nuit, puisque le soleil se lève que le lendemain matin. Alors on rattache à la lumière du soleil qui réapparaît le lendemain matin, la lumière des étoiles qui laisse deviner que la lumière est là, bien que la nuit soit arrivée. Pourquoi il est nuit vraiment pour la halakha à l'apparition des étoiles? Parce que l'apparition des étoiles, c'est le signe que la lumière du soleil du jour précédent a vraiment quitté le ciel, puisqu'on voit les étoiles. Parce que tant que la lumière du soleil est là, on ne voit pas les étoiles, elle cache les étoiles. Donc c'est l'apparition des étoiles qui est le signe de la nuit vraiment. Et alors là nous avons une période qui est une période de Safek. Yom Safek Laila. Il y a doute si c'est le jour encore ou doute si c'est la nuit vraiment. Et suivant les mitzvot, on tranchera de commencer le temps de la mitzvah soit au coucher du soleil, soit à la sortie des étoiles. Par exemple, étant donné la gravité de la pratique du Shabbat, on commence la pratique du Shabbat au coucher du soleil et on la termine à la sortie des étoiles. C'est-à-dire, on décide d'après la Chumra. Vous suivez? Mais pour d'autres mitzvot, par exemple le Kriyat Shema du soir, il y a des raisons pour lesquelles on décide que c'est à partir de l'apparition des étoiles que c'est la nuit pour le Kriyat Shema du soir. Ça y est, c'est clair? C'est bien intégré. Bon. Et ainsi, chaque fois qu'il y a une mitzvah dont le temps est à partir du soir, il y a une discussion dans la Gemara pour savoir si pour telle mitzvah en particulier, le soir commence là, au coucher du soleil, ou là, à la sortie des étoiles. Bon, j'espère qu'on aura avant la fin d'année une idée d'étude sur le Kriyat Shema du soir, de telle sorte qu'à ce propos, on étudiera plus en détail ce problème. Donc, mais ici, la Mishnah ne parle pas du soir habituel. Ken? Bon, alors je vais vous dire, la halakha est différente pour les Ashkenazim et les Sfaradim. Par exemple, si vous allez au Kotel, vous allez voir que les Minyanim des Sfaradim commencent la prière du vendredi soir très tôt. Alors que les Ashkenazim attendent l'apparition des étoiles pour la commencer, pour dire le Kriyat Shema après l'apparition des étoiles. Bon, puisque à vous de la question, je vais vous l'expliquer un peu rapidement. Ce qu'on cherche à propos du Kriyat Shema, c'est le moment de passage entre le jour et la nuit. Parce que c'est le moment de passage qui est le moment de la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on va affirmer que Dieu est un, bien qu'il y ait le jour et la nuit. Par conséquent, dans le jour, il n'y a pas d'objet de cette mitzvah. L'objet de la mitzvah commence dans le passage entre le jour et la nuit. Si je suis encore dans le jour, dire que Dieu est un, j'ai dit une vérité de la Torah. Mais la mitzvah d'avoir affirmé que Dieu est un malgré les apparences, n'a force de mitzvah qu'au moment où ses apparences font que c'est mitzvah. Est-ce que c'est clair l'idée? Comme on dit en hébreu, Bechartah, en son temps. Avant, c'est pas le temps. Après, c'est pas le temps. Est-ce que vous suivez? Alors, on a décidé que le Kriyat Shema, son temps, c'est depuis le soir jusqu'à minuit. Si on a laissé passer, a priori, si on a laissé passer minuit, a posteriori, il faut encore le dire jusqu'au matin. Mais a priori, on ne doit pas laisser passer minuit. Et alors, pourquoi? Parce que l'objet du Kriyat Shema est de lutter contre l'apparence de deux souverainetés. Le monde de notre représentation nous renvoie pas du tout à l'idée du Dieu unique, un, mais à l'idée de plusieurs absolus. L'absolu du jour, l'absolu de la nuit. Vous avez des religions entières, d'énormes religions, qui ont toujours pensé leur expérience religieuse par rapport à deux absolus de divinité. Le Dieu du bien et le Dieu du mal. Le Dieu de la lumière et le Dieu de l'obscurité. Le chidouche de la Torah, c'est que malgré ses apparences, Dieu est un, au-delà de cette dualité. Et quand est-ce que apparaît ce doute? Précisément au moment d'expérience du passage de l'un à l'autre. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, c'est pourquoi la Torah institue que le Kriyat Shema doit être dit chaque fois qu'il y a une expérience de passage d'un monde à un autre. Et à la limite, au moment de la mort. Okay? Et alors, dans ce cas-là, le critère de la halakha, c'est quand est le passage entre le jour et la nuit. Est-ce que le passage entre le jour et la nuit est déjà au coucher du soleil ou à l'apparition des étoiles? Alors, pour le créationnement, il y a d'autres raisons plus profondes, mais je vais, disons, pas l'essentiel, mais enfin, au premier enseignement. Pour le créationnement, on établira que c'est à partir de la sortie des étoiles, parce que tant qu'on ne voit pas les étoiles, c'est le signe que la clarté du soleil est encore là, du jour précédent. Est-ce que c'est clair? Bon, vous approfondirez cette question autrement. Or, comme le Shabbat commence au coucher du soleil, dans la halakha de la tradition sfaradite, on considère que puisque le Shabbat a commencé au coucher du soleil, c'est valable aussi pour le Kriyat Shema. C'est-à-dire, dès le coucher du soleil, on est déjà dans le jour suivant, parce que c'est Shabbat. Et donc, dès le coucher du soleil, on dit la tefila de Arbit avec le Kriyat Shema. Mais on doit répéter le Kriyat Shema la nuit, à la mita, après l'apparition des étoiles, bien sûr. Tandis que les Ashkenazim considèrent qu'il faut garder la même règle pour les jours de Chol et pour les jours de Shabbat. Vous voyez le problème. Maintenant, retenez bien que dans la halakha des Sfaradim, il y a un jour où il faut quand même attendre. Tous les jours de la semaine, il faut attendre la sortie des étoiles. Okay. Mais un jour de fête, la règle pour le jour de fête et le jour de Shabbat est la même. Puisque la...